Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stawrodromy z Europy.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Syriza, Podemos, la nouvelle gauche affole les bourses européennes. Bruxelles s'interroge, et si Alexis Tsipras, le leader de Syriza, devenait le prochain Premier ministre grec? Et si en Espagne, les sondages qui placent Podemos en tête des intentions de vote se confirmaient? L'euro serait-il menacé? Comment réagiraient les autres Européens? Et les sociaux-démocrates seraient-ils condamnés? Ou bien, au contraire, en profiteraient-ils pour se régénérer au contact de cette gauche radical. Laurent Bouvet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Votre dernier livre sort à l'instant. Il ne traite pas directement de notre sujet du jour, mais il est très actuel. Son titre, L'insécurité culturelle, et il est publié chez
Fayard.
Stéphane Sevendorf, Guten Tag, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Merci d'être en ligne de Strasbourg grâce à la gentillesse de France Bleu Alsace. Takis Theodoropoulos, bonjour, kalimera, kalispera.
Bonjour, bonjour d'Athènes.
Vous êtes écrivain et chroniqueur. Votre dernier livre, un roman, Le vin du pied des nuages, est publié chez Sabine Vespizer. Merci d'être en ligne d'Athènes. Alors avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je voudrais rendre hommage à nos confrères de Charlie Hebdo, morts pour la liberté de la presse, pour notre liberté, spécialement à nous Européens, l'Europe, l'Union Européenne, parfois vilipendée, reste par excellence le continent où l'on est libre de penser, de dire, d'écrire, de publier ce que l'on pense. L'Europe est le continent, même si on a parfois tendance à l'oublier, où l'on peut vivre ces différences dans la sérénité. Et ce n'est pas un hasard si toutes les unes des quotidiens européens se sont découverts Charlie au lendemain du drame. Alors depuis mercredi, les réseaux sociaux débordent de posts et de tweets. J'ai bien aimé l'un des vôtres, Laurent Bouvet. Vous avez repris une phrase de Voltaire écrite en 1764 dans son
philosophie.
Voilà, et je la reprends. Que répondre à un homme qui vous dit qu'il aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et qui en conséquence est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant? Comment réagit l'auteur de l'insécurité culturelle à ce massacre?
Bah d'abord avec beaucoup de, enfin hier ça a été évidemment un moment de stupeur et de tristesse puisque comme beaucoup de gens, moi je suis au milieu de la quarantaine et Charlie Hebdo a été pendant très longtemps un journal et en particulier ces dernières années d'ailleurs hein, depuis qu'il avait été relancé qui était pour moi toujours source de à la fois de rigolade et en même temps de réflexion
hein, prise de conscience.
C'était pour moi essentiel. Je me rappelle aussi quand il y a eu les caricatures danoises qui avaient été reprises par Charlie en 2006 ou encore quand ils avaient subi un attentat
il y a quelques années.
Et puis en 2012 quand ils avaient été à nouveau attaqués pour une caricature de Mahomet, du prophète, je me souviens qu'on n'était pas non plus si nombreux à soutenir quand même ce qui pour moi est essentiel, et c'est ça qu'incarne Charlie Hebdo, qu'incarne et que doit encore incarner, on va le dire comme ça, c'est-à-dire la liberté d'expression sans limite autre que le respect évidemment de l'ordre public, ce qui n'était pas le problème. Et donc moi j'avais soutenu à l'époque Charlie Hebdo contre tous ceux, beaucoup aujourd'hui, qui regrettent ce qui s'est passé évidemment hier, qui font beaucoup de bruit autour de ça, mais contre ceux qui à l'époque disaient qu'il fallait alors au minimum se taire, et au maximum fermer Charlie Hebdo et en finir avec Charlie Hebdo qui était soi-disant islamophobe.
Et on peut rappeler voilà. Que les représentants des trois religions, catholiques, musulmanes et juifs, s'étaient rassemblés, avaient imaginé et publié un communiqué commun pour condamner
Charlie Hebdo. Et beaucoup de journalistes dont on voit aujourd'hui qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, sur leur profil, je suis Charlie, qui en font beaucoup, qui en font énormément et peut-être même un peu trop pour se dédouaner de leur position d'il y a quelques années, ferait bien de réfléchir parce que les morts d'hier ne doivent pas l'être pour rien.
Stéphane Sevendorf, si vous deviez retenir une réaction en Allemagne.
Beaucoup de tristesse, évidemment, beaucoup d'émotions. On a eu des rassemblements dans plusieurs villes allemandes, devant les consulats français, devant l'ambassade à Berlin, avec des drapeaux. Nous sommes tous Charlie, nous sommes tous des Français. Mais aussi, ce fait qu'on voit dans des moments comme ça, plus clair, terriblement clair, qu'on voit ce que nous avons ensemble, ce que nous défendons ensemble. Pourquoi, au fait, nous sommes ensemble en tant qu'Européens? Qu'est-ce qui fait que nous avons des choses en commun?
Takis Theodoropoulos, quel écho a eu la fusillade de Charlie Hebdo en Grèce? Alors, la Grèce toujours en crise et en pleine campagne électorale.
Oui, mais vous savez, j'ai l'impression que cette campagne électorale préoccupe plus les Européens que les Grecs. Parce qu'ici, vraiment, on ne vit pas tellement dans une ambiance de campagne électorale. Mais bon, ça c'est une autre question. Ça a fait la une de tous les bulletins d'information. J'ai pas regardé les journaux aujourd'hui. De toute façon, moi, ma chronique, parce que ma chronique est quotidienne, je l'ai dédiée à Charlie Hebdo. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que notre interlocuteur a dit au début, c'est que, si j'ai bien compris, c'est que c'est vrai que c'est facile de condamner maintenant cet acte infâme et crapuleux, mais ce qui est plus difficile, c'est de continuer cette défense de la liberté d'expression que Charlie Hebdo représentait, ou Charlie Hebdo, c'est un journal emblématique d'une certaine manière, parce que ça montrait aussi que le sarcasme est une arme de la liberté, hein. C'est qui est, je crois, quelque chose qui est purement, enfin, une idée européenne de souche, disons. Mais j'ai vu aujourd'hui que certains médias américains comme le CNN ou le NBC qui ont passé l'information et qui ont donné beaucoup d'importance aux événements, ils ont refusé de mettre les caricatures de Mahomet, de les présenter. Donc ce que je crains, c'est que si on commence à s'auto-censurer, les assassins d'hier seront très contents, c'est-à-dire qu'ils ont fait fait ce qu'ils voulaient faire, en fait.
Merci à tous les trois pour vos réactions et commentaires, et rappelons que, encore une fois, l'Europe est le continent où on se sent le mieux, où la liberté est le plus défendue, et on la vit au quotidien. Alexis Tsipras en Grèce et Pablo Iglesias en Espagne sont les nouveaux héros de la gauche radicale européenne. À Athènes comme à Madrid, ils prospèrent sur les décombres de la social-démocratie. Ils font trembler les bourses européennes, mais s'ils gagnent, pourront-ils gouverner et en appliquant quel programme? Le rejet de la politique d'austérité symbolise le combat de Podemos et de Syriza pour une autre Europe. Et si leur ascension est fulgurante, c'est qu'ils posent des questions qui interpellent de plus en plus d'Européens. Comment dynamiser l'économie tout en soignant les blessures sociales. Petit tour d'horizon de la gauche radicale européenne avec vous, Maria Fonso.
En Espagne, le parti Podemos, que l'on peut traduire par « Nous pouvons », est issu du mouvement des indignés. Comme son leader, il est atypique, moins de hiérarchie, un équilibre astucieux entre participation citoyenne et représentation politique. Que Cheval, tenu décontracté, Pablo Iglesias, secrétaire général, exploite un contexte politique et surtout le rejet de la classe politique traditionnelle. Les Espagnols déçus soutiennent Podemos en réaction à la politique d'austérité, à la diminution des services publics et beaucoup aussi par conviction idéologique. Extrait du discours de Pablo Iglesias en tant que secrétaire général de Podemos en novembre dernier, où il définit l'Europe à sa manière.
Nous sommes des européistes, mais certains ont volé l'Europe de la liberté, de l'égalité et de la fraternité et l'ont convertie en cauchemar oligarque. Nous voulons, avec nos camarades grecs et du sud de l'Europe, ainsi qu'avec tous les peuples européens, nous voulons récupérer une Europe pour les citoyens, pour les travailleurs et les travailleuses. Une Europe qui récupère les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité.
Le parti Podemos, jeune et inexpérimenté, désormais perçu positivement par l'opinion publique espagnole. C'est aussi le cas de Syriza, en Grèce, représentant de la gauche radicale.
Même constat pour Alexis Tsipras, le leader de la formation Syriza. Son programme électoral, le refus des politiques d'austérité, l'effacement de la plus grande partie de la dette grecque et un moratoire des remboursements pour financer des mesures comme le relèvement du salaire minimum et l'électricité gratuite. Il faut dire que le coût social est terrible pour la population grecque. Les retraites ont diminué de 40%. Les allocations chômage cessent d'être versées au bout d'un an. Un taux de chômage qui frôle les 24%. La pauvreté explose et les Grecs sont à bout. Tous les sondages placent Syriza en tête pour l'élection législative anticipée du 25 janvier prochain. Et ce simple pronostic de victoire suscite beaucoup de nervosité dans le monde économique et les bourses européennes. À propos de l'économie grecque, Alexis Tsipras a déjà mis en garde les investisseurs étrangers.
Ce n'est pas une menace, c'est simplement une mise en garde. Que ceux qui vont venir s'enrichir en mettant en danger la compagnie nationale d'électricité y pensent à deux fois. Ils vont perdre leur argent et devront faire face à la justice.
Podemos et Syriza sont aux portes du pouvoir, mais loin de la Grèce, en Allemagne, pour la première fois, Die Linke, le parti de la gauche radicale allemande, dirige en coalition le Land de Thuringe. Bodo Ramelow en est devenu le ministre-président en décembre dernier.
Laurent Bouvet, il y a une différence entre le nord et le sud de l'Europe, malgré le succès relatif de Die Linke en Allemagne. On y reviendra. Pour vous, ce qui explique le succès de Podemos et de Syriza, c'est d'abord la crise ou l'usure des partis traditionnels, et notamment des partis sociodémocrates, que sont le PSOE en Espagne et le PASOK en Grèce.
Les deux et le lien entre la crise économique et les partis sociodémocrates, en particulier le PASOK, évidemment, bon, compte tenu de la dureté et de la profondeur de la crise en Grèce et de ce qui s'est passé depuis quelques années. Et puis dans une moindre mesure, mais tout de même en Espagne, on pourrait élargir encore le cadre à différents autres partis en Europe, sociodémocrates européens, socialistes, sociodémocrates. C'est le lien entre les deux, donc entre crise et partis sociodémocrates, et le déclin quand même, qui est une tendance générale de la social-démocratie.
Tendance lourde, hein, ça remonte bien avant la crise.
Bien avant la crise, on peut, pour simplifier, hein, pour que les auditeurs s'y retrouvent, on peut dire que depuis la chute du mur de Berlin, en 1989, la social-démocratie qui s'était construite à l'Ouest, dans le cadre de la guerre froide, autour du compromis entre capital et travail, avec l'État-providence, etc., qui avait construit un système de manière très générale, n'a plus trouvé de dynamique historique. Alors, est-ce que c'est parce que son frère ennemi, entre guillemets, communiste, est tombé? Est-ce que c'est parce que le capitalisme et les règles avec la mondialisation et l'ouverture des frontières, en particulier en Europe, la construction européenne, s'est durcie, est allée dans un sens plus libéral, peut-on dire? Est-ce que il y a plusieurs explications possibles? La crise a encore aggravé les choses parce que les partis sociaux-démocrates ont été considérés comme n'étant capable finalement de ne faire que la même politique que les autres partis conservateurs ou libéraux, donc de droite, pourrait-on dire en général, ne se sont plus distingués dans les solutions à apporter à la crise. On voit que c'est notamment le procès qui est fait aujourd'hui à François Hollande et au Parti Socialiste en France par une partie de la gauche. Ça, c'est un élément essentiel. Après, il y a des spécificités nationales, en particulier par rapport aux élites et au système politique, économique, qui est rejetée. Et ça, c'est le cas à la fois en Grèce et en Espagne. C'est-à-dire que Podemos, notamment en Espagne, rejette le système, y compris d'ailleurs, donc le PSOE, le Parti Social-Démocrate, mais aussi le Parti Communiste Espagnol, qui est considéré comme ayant fait partie du système, puisque les communistes, même s'ils étaient très minoritaires en Espagne, avaient des représentants dans différents conseils d'administration des grandes sociétés nationales, etc. Et donc, ils font partie du système. Donc, il y a un rejet très profond, un rejet anti-élite, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est un élément qu'on retrouve aussi, même s'il ne faut surtout pas faire d'amalgame et que la comparaison doit être très précise, on retrouve aussi ça beaucoup dans le populisme d'extrême droite qui, évidemment, lui aussi, progresse et croît partout en Europe.
Takis Theodoropoulos, le succès de Syriza, c'est bien sûr le succès de son leader, Alexis Tsipras, mais c'est aussi le succès, l'énervement des Grecs à l'égard d'un système, le rejet d'un système, PASOK, Nouvelle Démocratie.
Tout à fait. À quelques différences près, je veux dire, par rapport à la situation en Espagne telle qu'elle a été décrite. C'est-à-dire que Tsipras, il sort quand même de la classe politique, c'est un enfant, c'est un rejeton de la classe politique traditionnelle. Ce n'est pas quelqu'un comme Pablo Iglesias. Il a fait carrière comme syndicaliste quand il était lycéen, syndicaliste du Parti communiste, et depuis il a suivi une carrière à gauche, dans les partis de gauche traditionnels. C'est très drôle, mais pour un Grec, même maintenant quand on écoute la voix de Tsipras, on a l'impression qu'on est devant le fantôme de feu Andreas Papandreou. Il parle de la même façon. Et je deviens à la deuxième différence, c'est le fait qu'en Grèce, on ne peut pas parler de social-démocratie. Le PASOK n'était pas... il y avait un grand écart entre le Parti Socialiste grec et ses homologues européens. C'était le discours du PASOK...
très révolutionnaire.
D'abord, c'était tiers-mondiste. C'est-à-dire, c'était un parti tourné vers le tiers-monde, une ligne politique qui lui permettait de souligner les écarts entre la Grèce et l'Europe, parce que c'est là-dessus que le PASOK a eu son succès. Et c'est maintenant le même discours repris dans les termes de 2015 par Syriza. C'est-à-dire, c'est là où... je crois que est fondée l'ambiguïté de la politique de Syriza, et c'est cette ambiguïté-là qui, à mon avis, va l'empêcher d'obtenir une majorité écrasante comme elle était prévue il y a 2 ans aux prochaines élections. Parce que on ne sait pas très bien si Syriza est un parti pro-européen ou si c'est un parti qui tient un discours, disons, entre guillemets, nationaliste. Il ne faut pas oublier, quand je parle du socialisme grec, et c'est vrai que Syriza se nourrit des ruines du PASOK, du Parti Socialiste Grec. C'est-à-dire qu'au moment où Syriza est passé du 4% au 15% et 16% aux élections, c'est le moment que le PASOK est passé du 40% à 20%.
Et même aujourd'hui à autour de 5% d'intention de vote. Takis Theodoropoulos, on va revenir, c'est est-ce que Syriza peut gagner et comment il pourra gouverner éventuellement, avec quel programme. Stéphane Seydenhoff, vu d'Allemagne, cette gauche radicale, est-ce qu'elle fait un peu peur à l'équilibre un petit peu qui s'est instauré en Allemagne? On est évidemment dans une situation de grande coalition, et c'est à l'opposé de l'état d'esprit allemand.
Oui, je pense qu'on est aujourd'hui un peu plus loin. Ça a pu faire des inquiétudes il y a quelques années. Aujourd'hui, la social-démocratie allemande, elle est prête, sous certaines conditions, à entrer dans une coalition avec donc les Linke, avec ce qui reste du vieux parti communiste de l'Allemagne de l'Est et quelques groupes de l'extrême gauche de l'Allemagne de l'Ouest. Donc du coup, cette situation un peu figée pour la social-démocratie qui ne trouvait plus de partenaire à gauche et qui était donc forcée de gouverner puisque de gouverner avec la droite puisqu'elle ne trouvait pas de majorité à elle toute seule, elle est en train d'évoluer. Et pour le jeu démocratique, ça peut certainement être une bonne chose si on est devant plusieurs alternatives et c'est pas toujours la même grande coalition qui gouverne au centre.
On va faire une petite pause, le temps d'un point d'actualité sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, avant de retrouver nos invités très exactement dans 3 minutes. À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe. Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, rebonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie, Syriza, Podemos, la nouvelle gauche affole les bourses européennes, Bruxelles s'interroge, et si Alexis Tsipras, le leader de Syriza, devenait le prochain Premier ministre grec, et si en Espagne, les sondages qui placent Podemos en tête des intentions de vote se confirmaient, l'euro serait-il menacé, comment réagiraient les autres Européens, et les sociodémocrates seraient-ils condamnés, ou bien au contraire, en profiteraient-ils pour se régénérer au contact de cette nouvelle gauche radicale? Je vous représente rapidement nos invités. Laurent Bouvet, professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Il vient de sortir L'insécurité culturelle chez Fayard. Stéphane Seydendorf, directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg en duplex de Strasbourg. Et Takis Theodoropoulos, écrivain et chroniqueur en ligne d'Athènes. Alors, avant de poursuivre, on va faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Jerry Philippe. Les partis de la gauche radicale séduisent le peuple de gauche un peu partout en Europe. Et si la gauche radicale avait raison, proclame-t-il en chœur. Sauf que cette question, c'est le très libéral quotidien britannique Financial Times qui se la pose. Et si la gauche radicale avait raison?
Oui, absolument. Le Financial Times, c'est le journal de la City de Londres, le centre financier du Royaume-Uni. Mais parfois, ils prennent des positions assez iconoclastes. Notamment, ils étaient, depuis 2008, ils sont contre la politique d'austérité menée en Grande-Bretagne et aussi à travers l'Europe. Et voilà, nous avons le chroniqueur Wolfgang Munchau qui souvent prend des positions assez iconoclastes et il pose une question assez simple. Il dit que si vous êtes un Européen, et comme la grande majorité des Européennes, qui souhaitent une augmentation des investissements publics et une structuration de la dette, pour quel parti devriez-vous voter pour défendre ce programme? Eh bien, étonnamment, vous n'aurez guère de le choix. En Allemagne, les seuls à soutenir une ligne de conduite pareille sont les anciens communistes de Die Linke. En Grèce, ça sera Syriza. Et en Espagne, Podemos. Donc, peut-être vous n'êtes pas un partisan de la gauche radicale, mais si vous vivez dans un pays de la zone euro et souhaitez voir appliquer ces politiques, vous n'auriez pas d'autre choix. Alors, que se passe-t-il avec les partis européens de centre gauche, des sociodémocrates et des autres socialistes? Ils défendent ces positions lorsqu'ils sont en opposition. Mais une fois au pouvoir, ils ressentent le besoin de s'acheter une respectabilité et se découvrent un héritage idéologique très différent. Munchau constate que Podemos regarde simplement la vérité en face. En 2015, il est totalement illogique de laisser la zone euro entrer dans une longue période de stagnation sans restructurer sa dette. Et si personne ne fait rien pour éviter cette paralysie, l'Europe n'a presque aucune chance d'y s'y échapper. Alors c'est une tragédie pour lui, parce qu'il y a une tragédie dans la politique européenne. C'est la résignation des grands partis de centre-gauche et de centre-droite qui laisse l'Europe partir la dérive et entrer dans l'équivalent économique d'un hiver nucléaire. Et pour lui, bien sûr, c'est toujours un journal libéral. Et pour lui, il est particulièrement triste de voir que seuls les partis de la gauche radicale défendent des politiques pertinentes comme la restructuration de la dette et la montée en puissance de Podemos ainsi que Syriza et Die Linke en Allemagne, et le signe que les citoyennes réclament des politiques alternatives.
Merci Thierry. Courrier international, l'hebdo et courrierinternational.com. Cette fois-ci, c'est un papier à lire sur le site de courrierinternational.com. Alors, Laurent Bouvet, Syriza et Podemos ne font même plus peur au Financial Times, est-ce que c'est pas parce que cette gauche radicale ne l'est pas autant qu'elle le proclame?
Oui, alors il y a deux choses qu'on voit apparaître là depuis quelques mois, voire quelques semaines, et notamment avec la campagne grecque. On commence à comprendre, et c'est le sens du papier du Financial Times, que les leaders et de ces partis radicaux venus d'une extrême gauche très revendicative, très dure, etc., plus ils ont la perspective d'arriver au pouvoir, plus évidemment ils comprennent qu'il y a un certain nombre d'éléments de réalité, je parle pas simplement de la réalité économique et qui vont se convertir au libéralisme, etc. C'est pas ça, hein, mais de réalité institutionnelle, de fonctionnement, et notamment sur la sortie de l'euro. Et on a bien vu le débat il y a quelques jours avec la chancelière allemande qui a visiblement dit que bon bah si, ça serait pas mal que
ce serait pas si les Grecs quittaient
l'euro. Bon, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué et que on s'acheminerait, si jamais Syriza dirigeait un gouvernement, vers une négociation, et que dans une négociation il y a nécessairement des compromis. De la même manière avec Podemos en Espagne, c'est un parti qui sur le plan européen est un parti qu'on appellerait en France souverainiste. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait qu'il rapprocherait plus pour un public français, disons, de la position de Jean-Pierre Chevènement. On n'est pas dans une forme d'extrême gauche radicalisée, internationaliste et ou européenne, où les frontières doivent être ouvertes, etc., pour notamment au sens de la collaboration des travailleurs ou des choses comme ça. On n'est pas tout à fait là-dedans. Donc, plus on se rapproche du pouvoir, plus le sens de ce qu'il va falloir faire réellement, des compromis, des nécessités de gouverner, parce que c'est dire des choses en campagne, dire des choses dans l'opposition, c'est une chose. Être au pouvoir, gouverner, c'en est une autre. On le sait, en politique, il n'y a pas beaucoup de lois en sciences politiques, mais celle-là, pour le coup, accession au pouvoir, exercice du pouvoir, c'est évidemment quelque chose de différent. Donc, plus il y a ça, et plus les partis prennent d'ampleur du point de vue sociologique, plus il y a aussi des intérêts contradictoires, plus il y a des compromis à faire, pas seulement en cas d'arrivée au pouvoir, mais entre les participants de ces partis, de ces mouvements. Donc on est dans une logique politique très forte, structurante, et ces partis venus de l'extrême gauche vont y être soumis comme les autres. Ce ne sont plus des groupuscules.
Takis Theodoropoulos, c'est ce que Syriza, avec son leader Alexis Tsipras, on peut rappeler en tête dans les sondages des élections le 25 janvier, jamais Syriza n'a été aussi proche du pouvoir. Est-ce qu'il va pouvoir gouverner, éventuellement avec quelle majorité? Et puis, est-ce que ce parti, une fois qu'il sera au pouvoir, est-ce qu'il ne va pas se social-démocratiser comme l'expliquait à l'instant Laurent Bouvet? Car on peut rappeler, Syriza ne remet pas en cause l'appartenance à l'Union européenne, ne remet pas en cause l'appartenance à l'euro. Syriza, c'est le nouveau PASOK?
Tout à fait. Sauf que c'est vrai que la grande question qu'on se pose, c'est si Syriza va pouvoir gouverner, pour la très simple raison que, en fait, on doit parler de deux Syriza. Il y a le Syriza officiel qui est exprimé par un Tsipras et qui tient un discours pro-européen. Et de l'autre côté, il y a un Syriza qui est carrément de gauche. Il ne faut pas oublier qu'en Grèce, on a encore un parti communiste pro-soviétique, malgré le fait que l'Union soviétique n'existe plus, mais il y a un parti soviétique pro-soviétique en Grèce.
Très stalinien, hein ?
Qui a rétabli Staline il y a 2 ans, et qui est le seul le parti communiste, enfin, c'est un peu drôle, mais ça fait aussi partie de notre particularité nationale, c'est le seul parti qui a dit que la chute du mur de Berlin était un désastre pour les peuples le peuple allemand, mais bon.
Bah aujourd'hui, ce parti, le KKE, fait environ 3-4%.
Plus que ça, mais
il est
ils ont une grande influence dans une grande partie de Syriza, qui est représenté par un homme politique qui est très connu en Grèce, qui s'appelle Lafazani, c'est un ex-syndicaliste, qui est l'aile gauche de Syriza. Eux, ils ont quand même un grand pouvoir dans le groupe parlementaire de Syriza. Ils font quelque chose comme 30 ou 40% du groupe parlementaire de Syriza. Alors, eux, la question qu'on se pose, c'est comment ils vont réagir, eux, au moment où Syriza devra faire le grand virage et négocier pour pouvoir exercer le pouvoir. Alors, si il y a une faible majorité parlementaire de Syriza, ça veut dire que Syriza dépendra entièrement à la volonté et à la politique de ces gens-là, et on se demande ce qui va se passer à ce moment-là. Mais tout ça, c'est des questions qu'on se pose ici en Grèce, et je crois que, à mon avis, l'essentiel pour le reste de l'Europe, c'est qu'il y a quand même une grande majorité du peuple grec qui, malgré tous les problèmes qu'on a eus ces dernières années, malgré la crise économique écrasante, malgré le fait qu'on a décimé les classes moyennes, la grande majorité reste pro-européenne.
Stéphane Seydendorf, alors on a bien vu que les partis de gauche radicale, Syriza, Podemos, ils ont un point commun, c'est que ce sont des partis de pays du sud, dans le nord, en Suède, dans les pays scandinaves, dans l'est de l'Europe, et évidemment en Allemagne, la social-démocratie résiste mieux, sauf qu'elle est pratiquement toujours obligée de gouverner en coalition. Et là, est-ce qu'elle n'est pas un peu en train de perdre son âme encore un peu plus rapidement? On voit bien que la grande coalition, les sondages le prouve, profite plutôt à la CDU, le parti d'Angela Merkel, qu'à au SPD, le parti de Sigmar Gabriel.
Oui, c'est ce qui peut se passer, mais d'un autre côté, si vous voulez, je vais vous parler de la Thuringe. La Thuringe, ce petit état au centre de l'Allemagne, et puis même on peut dire au centre de l'Europe, comme on est au fond de l'Europe, puisque là, l'extrême-gauche, ou ce qu'on appelle l'extrême-gauche, est déjà au pouvoir.
En coalition.
En coalition, voilà, en coalition avec les sociaux-démocrates et les Verts. D'ailleurs, une coalition un peu à contre-nature. Les Verts, c'est la gauche libertaire et la Linke allemande, elle a toujours cet héritage de l'Allemagne de l'Est, un peu plus autoritaire.
Est-ce que c'est pas l'illustration que la social-démocratie allemande ne sait pas où elle va, où elle veut aller, d'un côté avec la CDU d'Angela Merkel et de l'autre côté avec les Verts et des Linke?
Justement, j'y viens. Si on regarde de près qu'est-ce qui se passe dans cet état de Thuringe, nous voyons exactement ce que Laurent Bouvet a expliqué tout à l'heure. La première chose, la première image que nous avons tous gardé en tête, le nouveau ministre président, donc représentant de Die Linke, Bodo Ramelow, il tombe la première fois sur la chancelière à un moment officiel et il s'incline. Donc ça, c'est une image, hein, c'est pas encore de la politique, c'est l'image. Mais toujours sur le niveau symbolique, si on regarde le document qui est à la base donc de cette coalition, le traité de coalition qu'on fait avant d'entrer dans un gouvernement, les Verts et les sociaux-démocrates, ils ont réussi à ce que tous les trois partis, donc les communistes inclus, Die Linke inclus, qualifient l'Allemagne de l'Est comme un état de non-droit. Pas un état de droit, mais un état de non-droit. Ce qui a toujours fait débat, ce qui était toujours impossible à admettre pour donc cette extrême-gauche allemande, là, très vite, devant le pouvoir, ils ont accepté cette appellation. Et puis, troisièmement, on est toujours dans le symbolique, si on regarde concrètement la politique, le ministre-président Bodo Ramelow de Die Linke, un ancien syndicaliste de l'Allemagne de l'Ouest, qui est venu en Allemagne de l'Est en 90 pour justement créer les bases d'un syndicalisme en Allemagne de l'Est, il a dit que tous les projets politiques qu'ils vont réaliser sont sous condition de financement et il ne va pas faire de nouvelles dettes. Alors ça, c'est intéressant, c'est très fort. Hein, un message de gauche, on dit toujours, la gauche, elle a envie de dépenser et elle fait des dettes.
Mais la gauche allemande,
il dit le contraire. Il dit, on fait tout ce que vous voulez, tout l'agenda de politique de gauche, notamment sur l'éducation, sur les enfants, sur les crèches, mais à condition de pouvoir le financer. Et je ne veux pas faire de nouvelles dettes pour justement ne pas être prisonnier ou subir le chantage des banques ou des financiers. Alors ça, c'est très fort, et c'est cet effet structurant que Laurent Bouvet avait bien expliqué tout à l'heure.
Finalement, cette nouvelle gauche, est-ce que c'est pas une gauche très keynésienne qui veut relancer l'économie par l'investissement en redistribuant du pouvoir d'achat, Laurent Bouvet?
Oui, alors... On a appelé ça, par rapport à la Grèce notamment, le cadre général de la social-démocratie. Il faut bien voir que c'est l'appellation générale en Europe. On sait qu'en France, ce terme est utilisé maintenant récemment, de manière plus positive d'ailleurs, qu'il l'a longtemps été, puisqu'il a longtemps été négatif. Aujourd'hui, il est plus positif, puisque les sociodémocrates, ce serait un peu ceux qui gardent justement le keynésianisme, la politique de la demande, etc.
Ce qui fait traditionnel, l'Europe, ce qui caractérise l'Europe.
Ce qui a caractérisé l'Europe pendant des décennies après la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, ce que vous dites sur le keynésianisme est intéressant. Les partis dont il s'agit ici, Syriza, Podemos, même s'ils ont une aile dure, une aile plus à gauche, hein, on l'a vu tout à l'heure dans le cas grec, ça a été bien expliqué, ne sont pas des partis marxistes. Ce sont pas des partis collectivistes. Ce sont donc des partis qui, effectivement, comme doctrine économique, tendent plutôt vers le keynésianisme. Alors le problème du keynésianisme, et là on retrouve le problème européen, c'est que le keynésianisme, ça fonctionnait, pour rester le moins technique possible, en économie fermée. C'est-à-dire que le compromis entre le capital et le travail, décidé démocratiquement par des acteurs, les syndicats, le pouvoir, le gouvernement, le patronat, etc., des acteurs sociaux, se faisait dans un cadre national. C'était le social, la démocratie et la nation. Évidemment, avec l'ouverture des frontières, la construction européenne qui ne se fait pas, qui ne s'est pas faite sur les principes classiques de la social-démocratie. Hein, ça a été peut-être l'illusion ou peut-être le paradoxe des sociodémocrates qui ont soutenu à partir du début des années 70 la construction européenne, mais évidemment qui ne s'est pas faite sur leurs principes, qui s'est faite plutôt sur les principes de ceux qu'ils combattaient politiquement. Donc ça, c'est aussi assez intéressant quand on voit évidemment les grands partis socialistes, sociodémocrates avoir été très européens, toujours avoir dit oui à tous les traités, etc., alors que évidemment ils sapaient un peu leur base. C'est aussi pour ça, comme ça, que s'explique le succès de ces partis plus souverainistes comme Podemos, beaucoup plus critiques à l'égard de l'Union européenne, évidemment comme Syriza ou d'autres. On voit le Front de Gauche en France, Die Linke en Allemagne et d'autres. Et donc, quelle est la condition de possibilité de politique de relance? Alors, on a bien compris que en Allemagne, évidemment, la question de la dette était une question sacrée, évidemment, mais quelle est la possibilité d'une politique de relance? On voit en France le programme du Front de Gauche, par exemple, du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Quelle est la possibilité de cette politique dans un cadre européen qui resterait inchangé? D'où l'idée de l'émergence de ces différents partis sur la scène européenne. Dans les différents pays, je crois que chacun des leaders y travaille en lien avec les autres, hein, Jean-Luc Mélenchon, avec Tsipras, avec Iglesias, etc.
On peut rappeler que Tsipras était le leader de la gauche radicale européenne.
Exactement.
Il a mené une campagne européenne, il est venu en France notamment.
Voilà, je voulais signaler ça tout à fait. Donc il y a eu cette européanisation pour essayer de faire changer la donne européenne. On constatera simplement, je terminerai par là, qu'on n'y est pas encore parce que les peuples européens, bien que localement ils puissent, dans des conditions spécifiques comme en Grèce, peut-être demain en Espagne, aller de plus en plus vers ces partis, ne le font pas dans le reste de l'Europe. Et que ce sont davantage les critiques venant de l'extrême droite par rapport à la construction européenne, le souverainisme lié à cette fois à une identité au sens culturel très fort du terme, qui ont plutôt le vent en poupe. Donc il faut aussi placer ces progrès en Grèce, en Espagne, dans ce cadre qui n'est pas favorable ni à la gauche, ni à l'extrême gauche aujourd'hui. Je crois qu'il faut en avoir bien conscience.
Alors c'est vrai que c'est ce vote protestataire, cette remise en cause du système européen, c'est plutôt à gauche dans le sud de l'Europe et franchement à droite dans le nord, UKIP en Grande-Bretagne, les démocrates suédois, finlandais, sans parler du Jobbik ou en Hongrie. Effectivement, il y a deux façons.
Le Front National en France,
bien évidemment, qui évidemment lamine le Front de Gauche. Le Front National
qui dans toutes les élections est devant le Front de Gauche depuis la présidentielle de 2012.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
En Grèce, Takis Theodoropoulos, est-ce qu'on a l'impression d'être un petit peu des leaders européens ou pas? Est-ce qu'on a conscience de cette dimension ou pas? C'est-à-dire que malgré tout, en Europe, on regarde ce qui se passe en Grèce et parfois avec un certain espoir.
Ça, c'est une impression qu'on a en Grèce. Vous voulez dire, parce que je pense pas que le reste de l'Europe regarde la Grèce, le sentiment c'est l'espoir, c'est plutôt le désespoir, pour être franc. Non mais vous savez, j'écoutais avec, c'est très intéressant ce qui a été dit tout à l'heure, mais d'abord je dois signaler qu'en Grèce il n'y a pas grand chose à nationaliser. Donc,
oui, parce qu'on peut rappeler que malheureusement la Grèce ne produit pas beaucoup de choses.
Eh oui, et donc la plus grande tranche de l'économie passe par l'État. Et de l'autre côté, il faut voir que c'est pendant cette campagne électorale, ce qu'on peut constater politiquement, c'est que c'est vrai qu'il y a un virement vers la gauche d'une grande majorité des électeurs, mais de l'autre côté, la droite se droitise de plus en plus. Avec... C'est-à-dire que on voit au lieu que le grand parti de centre droit Néo-Démocratie, qui est le parti du gouvernement, au lieu de tourner vers le centre pour pouvoir récupérer ce que le PASOK a perdu de classe moyenne vers la gauche, il tourne vers la droite. C'est-à-dire ils tiennent un discours en xénophobe parce que en Grèce on a aussi le problème de l'aube dorée, ça il faut pas oublier.
Qui est encore une grande particularité de la Grèce, il n'y a pas que le parti communiste stalinien, il y a aussi en Grèce
un parti nazi,
c'est quand même
parti nazi qui n'est pas l'extrême droite, c'est un parti nazi carrément et qui effraie tout le monde. Je veux dire, c'est en fait si on fait une projection vers l'avenir, ce sont eux qui nous font peur. Et ce sont eux le problème le plus grave, parce que je crois que au cas où il y a une faillite de la politique de Syriza, si Syriza arrive au gouvernement, cela veut dire que la droite va devenir de plus en plus, va virer vers la droite, et l'aube dorée nous attend. Et ça, c'est effrayant. Cette perspective est effrayante.
Stéphane Sejernov, on se rapproche du terme de cette émission. Est-ce que ce grand écart de la social-démocratie qui tantôt gouverne avec Angela Merkel, tantôt avec Die Linke, est-ce que c'est un problème un peu presque schizophrénique, je serais tenté de dire. Est-ce que ça va obliger, est-ce qu'il y a des gens au SPD qui réfléchissent, qui disent, il faut qu'on retrouve une ligne claire, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on retrouve nos points de repère, ou pas du tout?
Les points de repère, c'est comment gagner des majorités pour le SPD en ce moment, et ça passe avant la réflexion sur le programme. Et c'est bien là un des problèmes de la social-démocratie en Allemagne aujourd'hui. Ceci dit, ce qu'elle a réussi avec la Grande Coalition, ça peut être un début de poser quelques bases qu'elle a réalisées au sein de cette grande coalition, donc le SMIC, la retraite à 63 ans, plusieurs éléments qui sont clairement attribués à la social-démocratie, et puis on peut le voir un tout petit peu dans les sondages où les SPD aujourd'hui va mieux qu'il y a encore quelques temps avant le début de cette coalition.
Laurent Bouvin, c'est vous qui allez avoir le mot à la fin. Cette gauche radicale, elle accélère la morlande de la social-démocratie, ou au contraire, selon vous, elle va la titiller et l'obliger à réinventer, je dirais, un peu, redonner un peu de rêve aux citoyens et pas simplement faire du pragmatisme politiquement correct.
L'enjeu est la mobilisation d'une partie de l'électorat dans les différents pays. Alors il y a des niveaux de participation différents, mais la tendance est quand même à l'augmentation de l'abstention. Donc on va voir ce que ça donne évidemment aux élections grecques. Surtout que bon, ils revotent, hein. Enfin c'est récurrent, donc c'est un peu plus compliqué. Mais l'enjeu pour ces partis de la gauche, je dis pas de l'extrême gauche, hein, maintenant, mais disons de la gauche, on peut dire comme ça. Et puis des sociaux-démocrates, c'est de pouvoir. Alors ensemble ou non, selon les systèmes électoraux, hein, ça c'est la grande question. Il n'y a pas des grandes coalitions possibles partout, hein, on sait bien que c'est plus compliqué que ça, de pouvoir mobiliser un électorat qui ne se déplace plus pour eux, voilà, qui ne vient plus voter et qui non pas se met à voter à droite ou à fortiori pour l'extrême droite. Le déplacement de la gauche ou de l'extrême gauche vers la droite ou l'extrême droite est quand même assez limité. Il faut être très clair là-dessus. Hein. Je crois que beaucoup de travaux de sciences politiques ont montré depuis une vingtaine d'années qu'il n'y avait pas de déplacement massif des ouvriers de l'extrême gauche, enfin, du communisme vers l'extrême droite. Ça, c'était faux. Mais en revanche, il y a une abstention de plus en plus importante de ce qui était des secteurs entiers, donc catégories populaires, les ouvriers, les petits employés, partie des fonctionnaires maintenant aussi, qui étaient traditionnellement des électorats importants pour la gauche, aussi bien la gauche de la gauche que la social-démocratie. Or, on voit qu'il y a désormais une absence de mobilisation et de capacité des partis de gauche, comme des syndicats d'ailleurs, de mobiliser cet électorat, de mobiliser ces citoyens. En partie parce que la politique qu'ils mènent ne favorise pas les intérêts de ces catégories, très clairement, objectivement, et aussi parce qu'il y a un discours qui est parfois en décalage, y compris dans la gauche de la gauche, par rapport à des réalités sociales. Par exemple, en France, si on revient à la France, un discours, on en a vu pendant la campagne présidentielle de 2012 de Jean-Luc Mélenchon, très protectionniste sur les capitaux, les biens et services, sur le marché, etc. Mais très ouvert et très internationaliste et sans frontières sur l'immigration. Son discours, notamment à Marseille, une semaine avant le premier tour, a été très marquant parce que, évidemment, quand on s'adresse comme ça aux victimes de la mondialisation et qu'on dit on va vous défendre, il y a un hiatus à un moment donné parce que ces victimes ne comprennent pas pourquoi on va pas les défendre aussi dans la compétition par exemple pour les bas salaires, etc., avec l'ouverture des frontières, notamment une immigration de travail, qu'elle soit alors illégale pour la plupart, ou aussi sur les modes de vie, etc., du point de vue culturel. Donc on a là quelque chose qui n'est pas résolu et que, aussi bien social-démocratie que gauche radicale, qui sur ces questions hors économie, stricto sensu, donc plutôt sur l'immigration, sur les questions d'intégration, position vis-à-vis de l'islam, etc., se font quand même tailler des croupières par, évidemment des solutions beaucoup plus dangereuses,
nationalistes et
dangereuses,
et de repli sur soi-même,
populistes, d'extrême droite, etc. Donc c'est là, je crois, un des cœurs de la réflexion aujourd'hui pour l'ensemble de la gauche.
Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier, merci à France Bleu Alsace. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Laurent Bouvet, L'insécurité culturelle chez Fayard, il vient de sortir. Takis Theodoropoulos, votre dernier livre, c'est un roman, Le va-nu-pied des nuages, chez Sabine Vespizer. Sur RFI.fr, à la page de l'émission, plein de choses vous attendent, les références de nos invités, le podcast, sans oublier bien sûr les réseaux sociaux, Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Ezesquel, où que vous soyez, en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.